Aujourd'hui l'écho, la chronique de l'économie sur RFI. Dominique Bayard, c'est aujourd'hui à Rome qu'on vous retrouve. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Rome, car vous avez suivi bien sûr pour nous le sommet du G20 ce week-end. On parlait tout à l'heure avec Agnès Rouget des enjeux de la COP26 à Glasgow. Mais le climat a été évoqué bien sûr en Italie. Pourtant, le compte n'y est pas. Les dirigeants se sont entendus sur les objectifs de réduction des émissions de carbone, mais pas sur les moyens d'y parvenir alors qu'on espérait un accord sur la sortie du charbon. Alors Dominique, comment expliquer cet échec ?
Eh bien écoutez, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, comme le G20 s'y est engagé dans son communiqué final, il faudrait fermer 3000 centrales au charbon d'ici 2030. Cela veut dire fermer une centrale chaque jour selon l'Institut de recherche Transition Zéro. Or, pour le moment, la seule concession faite par les 20 pays les plus riches de la planète, eh bien, elle concerne seulement les futures centrales au charbon. Ils s'interdisent de les financer à l'étranger. Une promesse très symbolique puisque les installations ultra-modernes moins polluantes en sont exclues puisqu'ils pourront continuer à en construire chez eux. Si le résultat du G20 est aussi limité sur ce sujet, c'est d'abord parce que ce club regorge de gros consommateurs de charbon. Plus de la moitié de ses membres font partie des 10 premiers consommateurs mondiaux.
Et parmi eux, Dominique, la Chine, l'Inde et l'Indonésie, trois pays qui ont basé leur développement sur cette énergie.
Alors, l'Indonésie, c'est le seul qui envisage de l'abandonner d'ici 2040. C'est ce qu'a laissé entendre le Premier ministre Boris Johnson il y a quelques jours devant le Parlement britannique. En revanche, ni la Chine ni l'Inde n'envisagent une telle révolution. C'est grâce au charbon que ces deux pays se sont enrichis, qu'ils ont pu intégrer le club très select du G20. Alors pour eux, il est bien trop tôt pour s'en passer. Le prix à payer en termes de croissance à court terme est jugé beaucoup trop élevé. Et avec la flambée récente des prix de l'électricité, avec les pénuries de courant, Pékin veut plus que jamais privilégier la sécurité de ses approvisionnements. Or, la Chine dispose encore de réserves substantielles de coke. La Turquie et la Russie se sont également opposés à un calendrier contraignant sur cette ressource bon marché qu'ils ont en abondance dans leur sous-sol pour couvrir une partie de leurs besoins.
Et il n'y a pas que les pays émergents qui défendent ce charbon, Dominique. Il y a l'Australie aussi qui en est un fervent avocat.
Oui, l'Australie, le premier pays exportateur mondial de charbon. Il n'est donc pas dans son intérêt de voir la consommation diminuer dans les prochaines années. Ce pays, aujourd'hui en froid avec la Chine qui ne lui vend plus une brique de coke à cause de leur brouille diplomatique, a cependant un agenda commun avec Pékin sur l'avenir de cette énergie. La Russie, à la fois consommatrice et exportatrice, est sur la même ligne. Enfin, pour d'autres motivations, d'autres pays occidentaux défendent encore et toujours le charbon au sein du G20. Les États-Unis, les troisièmes consommateurs au monde et aussi de grands exportateurs, ont déjà fermé 200 centrales depuis le début des années 2000. Mais ils avancent lentement pour protéger leur industrie minière et surtout pour satisfaire son gisement d'électeurs. En Allemagne, on ouvre encore de nouvelles mines pour alimenter des centrales électriques à proximité de Cologne. Elles sont indispensables pour la transition énergétique puisque les Allemands ont abandonné le nucléaire. Il y a donc au sein du G20 un faisceau d'intérêts communs pour soutenir cette industrie, quoi qu'il en coûte pour le climat.
Aujourd'hui l'écho, Dominique Bayard en direct de Rome pour RFI.